vous avez décidé de nous rappeler aujourd'hui qu'après la publication du dernier rapport du GIEC, certains pensent que pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il n'y a pas d'autre solution que de ne plus avoir d'enfants. C'est un peu radical comme solution, ça.
Oui, enfin, c'est la perception qu'on a eue. En fait, effectivement, après ce rapport du GIEC qui était très alarmiste, vous en avez parlé ici sur cette antenne, l'agence France Presse, l'AFP, a eu la bonne idée, si je puis dire, plutôt la mauvaise idée en l'occurrence, de faire un tweet dans lequel on voit un graphique qui montre les différentes méthodes ou moyens de diminuer son empreinte carbone. Alors évidemment, changer une ampoule, c'est pas mal. Arrêter ou annuler carrément un vol transatlantique aller-retour, ça c'est mieux. Mais le top du top dans ce graphique, c'est d'avoir un enfant en moins, puisque là, c'est 59 tonnes de CO2 en moins. Alors évidemment, quand on le dit comme ça, de manière abrupte, c'est radical, comme vous venez de le dire, ça a choqué pas mal d'internautes. Alors certains se sont dit, finalement, s'il faut diminuer le nombre d'enfants, c'est pas à nous, Européens, à le faire, on est déjà à peine au seuil de renouvellement. D'autres disent, mais c'est très triste d'en arriver là, parce que si l'humain devient une bête variable. Comme dans un bilan d'une entreprise, etc., où en est-on? Et puis d'autres, un petit peu plus, je dirais, ironiques et tout, se disent, mais finalement, il faudrait peut-être donner une médaille à un serial killer, puisqu'il diminue l'empreinte carbone. Voilà, c'est une manière de voir les choses. En fait, c'est pas un mouvement nouveau, je veux dire, ça existe déjà du temps de cet économiste, mais qui était aussi Pasteur Malthus. Et ici, c'est surtout inspiré, je dirais, d'un mouvement américain qui dit que finalement, si tu aimes tes enfants, ne les mets pas au monde, car le monde, c'est une poubelle. Et donc, pour eux, finalement, si vraiment le désir de procréer est tellement important, il faut adopter.
Si on peut comprendre l'argument, le danger n'est-il pas de culpabiliser l'être humain? Vous qui nous écoutez dans votre voiture ou chez vous, en vous disant en quelque sorte que vous êtes égoïste.
Alors, ça, c'est effectivement le danger. Il faut savoir que la génération qui est en âge de procréer aujourd'hui, c'est celle qui a vécu ici avec le chômage, notamment provoqué par la crise économique de 2008. Vous en avez parlé aussi sur cette antenne. C'est la génération aussi qui a dû vivre et survivre avec le terrorisme. Et puis là, on voudrait en plus lui ajouter la culpabilité, je dirais, du réchauffement climatique. Ça fait peut-être beaucoup. Puis il faut savoir qu'avoir un enfant ou faire un enfant, c'est d'abord un signe de confiance, c'est un signe d'optimisme. Et donc, si on suit, par exemple, ce mouvement qui voudrait qu'à horizon de 2050, il y ait 500 millions d'êtres humains en moins, quelque part, c'est une sorte d'humanicide et ça voudrait dire simplement qu'on n'a plus confiance dans l'avenir. Et ça, c'est une vision pessimiste terrible.
Et vous, Hamid, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Moins d'enfants ou bien c'est pas le débat?
C'est une bonne question, Midi, mais elle vient trop tard. Après avoir vu le graphique, j'ai jeté mon fils à la poubelle.
Et vous, Bertrand?
Moi, ça me fait penser à la deep ecology américaine. Vous savez que ça fait depuis les années 70 qu'en Australie et aux États-Unis, il y a un courant de deep ecology qui pense que l'homme est un cancer pour la planète et qu'un cancer, qu'est-ce qu'on fait?
On l'éradique.
On l'éradique. Il y a eu d'ailleurs un film de Terry Gilliam, je sais pas si vous l'avez vu, L'armée des 12 singes, avec ces scénarios-là d'une éradication par des environnementalistes. Quoi, même l'écologie peut avoir ses anti-humanistes et ses fascistes, mais heureusement, la domination chez les écologistes, c'est quand même des humanistes.
On n'y est pas encore.
C'est pas un message politique subliminal, on est d'accord.
Clairement, on vous retrouve pour un débat, comme chaque jour, débat premier.
On va reparler politique, aujourd'hui, on va faire un débat avec deux politologues sur, au fond, quel est le rapport de force, on reparlait un peu de la chronique tout à l'heure, entre les socialistes et les libéraux, notamment aujourd'hui, en Belgique francophone.
Et puis vous pouvez lire, bien sûr, Hamid Faljaoui dans son magazine Trends Tendance.
Merci, Mehdi. Merci.
7h45, direction le centre RTBF Mobile Info. Un accident à signaler dans le chantier E411 vers le Luxembourg, Amandine Aymar.
On vient d'apprendre justement une bonne nouvelle. Ça tombe à l'instant. Bonne nouvelle puisque la chaussée vient d'être dégagée. Donc sur cette E411 Namur-Luxembourg, c'est à hauteur de Sterpenich. Cela dit, il y a toujours les files suite au chantier entre Arlon et Sterpenich. Justement, comptez environ 30 minutes. La situation est vraiment compliquée là-bas vers le Grand-Duché. Un camion est en panne sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles à hauteur de Cherat. Bande de droite neutralisée. Là aussi, il y a pas mal de files. Des files dans lesquelles vous perdez 20 minutes vers la capitale. Ça ralentit pour rejoindre Bruxelles, justement. Comptez environ 20 à 25 minutes supplémentaires sur les différents axes qui convergent vers la capitale. Et puis sur le ring de Bruxelles, comptez une vingtaine de minutes maximum perdues sur les différents tronçons du ring.
7h46 à suivre Thomas Gadisseux et son invité ce matin, une liégeoise.
Oui, Christine Defraigne, candidate MR justement à la ville de Liège. Les Liégeois qui font toujours autrement que les autres.
Oui, ça c'est vrai.
Dimanche soir.
Elle parle déjà, oui.
Apparemment,
elle fait différent des autres. Les autres se taisent quand il y a le
teasing. Apparemment, c'est les Namurois qui sont lents, mais là, les Liégeois, ils nous ont fait attendre toute la soirée pour les résultats et encore pour leur coalition. Alors on en parlera.
À tout de suite.
6h, 8h. Matin première.